France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, quelle que soit l'heure, c'est l'apéro et moi j'attends dans mon bistrot une figure de la jeunesse européenne qui s'engage pour le climat. Elle s'appelle Adélaïde Charlier. Entre ici, jeunesse d'Europe qui lutte pour le climat.
Quel honneur, quelle entrée.
Bonjour Adélaïde.
Tout le monde dit bonjour dans le bistrot.
Ouais, tout le monde est sympa. C'est la belgitude.
C'est ça. Oui, alors voilà. Donc Adélaïde est belge, mais je la connaissais pas avant.
J'ai invité ma compatriote, oui ou non?
Allez, venez vous asseoir, Adélaïde.
Merci, merci.
Charline Vanhoenacker. Bistroscopie sur France Inter.
Adélaïde Charlier, on va parler de l'engagement quand on a 20 ans. Vous êtes l'une des figures européennes de votre génération, de la lutte pour le climat, entre autres. Vous êtes activiste. Forbes vous classe parmi les 30 personnalités de l'année 2025 chez les moins de 30 ans. Oh, ça se pose là quand même. Vous êtes avec d'autres jeunes Belges à l'origine des manifs de lycéens pour le climat qui ont ensuite essaimé dans toute l'Europe, dans le sillon de Greta Thunberg. C'était Youth for Climate, dont vous avez été la porte-parole d'ailleurs. Et à l'automne dernier, vous avez rejoint la COP au Brésil en voilier, avec un équipage exclusivement féminin, dont Camille Etienne. Ouais. Alors, Adélaïde Charlier, 6 meufs sur un voilier pour aller faire contrepoids au lobby pétrolier présent à la COP. C'est bon, vous les avez pliés?
Notre énergie est quand même pas à sous-estimer. Je peux vous dire qu'ils ont peur, ouais.
ils ont flippé, ouais. Vous voyez en rêve.
Je sais qu'ils flippent parce que dans le passé, j'ai déjà reçu quelques mails de Total Energy. Hein. Donc, je sais que, par exemple, ils ne sont pas hyper contents quand on se focus un peu trop sur leur projet. Mm-hmm. Donc, c'est bon signe, quoi.
Donc, 40 jours de traversée de l'Atlantique, quand même, sur un petit voilier. 2 semaines à la COP, à peu près. Oui. Et puis, 2 semaines en Amazonie aussi. Vous en avez profité d'être sur place, notamment avec Camille Etienne. Qu'est-ce qui valait le coup dans tout ça?
Littéralement tout. Parce que c'était le temps de se concentrer sur chacune des étapes à la fois, être à fond dans le monde de la voile pendant certains moments avec des meufs, de profiter de cet instant et du coup d'être vraiment ancré dans l'action qu'on avait envie de mettre en place à ce moment-là, rempli de doutes aussi, pour être honnête. J'ai beaucoup douté du projet qu'on a monté pendant longtemps. Est-ce que c'est vraiment ça la priorité? Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'activiste aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est? Et je me pose énormément de questions. Et donc, ça paraissait logique, mais parfois, ça paraissait décalé en même temps que la flotilla pour Gaza. Et en attendant, on l'a quand même fait à fond, déterminé. Et arrivé à la COP, on a fait à fond le travail aussi. En Amazonie, on a fait à fond le travail aussi. On a dû s'adapter parce que de base, on avait un voilier de retour qui, du coup, n'est pas rentré. Donc, on a dû rentrer en avion. Donc, tout ça, c'est s'adapter au contexte actuel. Et chaque moment, comme on l'a fait à fond, ça nous a quand même permis d'avoir l'impact qu'on peut avoir aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut déjà mesurer les retombées de votre action là-bas?
À la COP, oui. Très concrètement, on était le coup de pression vers les politiques européens. Donc, pour le côté belge, littéralement, notre ministre de l'Environnement à tous les niveaux de pouvoir, parce qu'on a plusieurs niveaux de pouvoir en Belgique. Et, et donc, ils étaient deux. Et donc, eux, c'était clairement un gros coup de pression. Ils ont rejoint les textes qu'on a poussés. Donc, la déclaration sur la sortie des énergies fossiles qui était présentée par la Colombie, hyper important. Et la Belgique a rejoint la même chose pour une déclaration sur les fausses informations autour du dérèglement climatique. Donc, s'assurer que dans les textes finaux, au niveau international, il n'y ait pas de fake news, ce qui est quand même, en fait, il se passe beaucoup aujourd'hui, surtout avec l'Amérique de Donald Trump. Et donc, ces deux déclarations ont été signées par la Belgique, mais on a mis des gros coups de pression envers la France aussi, qui n'ont pas encore rejoint ces deux déclarations. Donc, la pression continue. C'est pour aussi montrer que ce n'est pas des one-shots, c'est vraiment... À la COP, on donne tout, on est sur place parce qu'on peut littéralement parler à votre ministre, mais on continue après la COP. Et puis maintenant, on met des gros coups de pression surtout à Bruxelles pour que l'Union européenne, avec les 27 États membres, rejoigne ces déclarations, ce qui aurait un impact encore plus important alors à ce moment-là.
Mais c'est ça aussi votre métier, c'est mettre des coups de pression?
Oui,
c'est pression contre pression.
Il faut parler toutes les langues déjà quand on veut mettre des coups de pression, donc ça veut dire littéralement parler le monde politique, savoir être plutôt dans un aspect vu comme lobbyiste, savoir parler leur langage, et puis il faut savoir parler le langage de la communication pour décrypter ce qui se passe. Il faut parler avec les différents mouvements sociaux, environnementaux. Donc, il faut savoir s'adapter.
Il faut être un cube magie, on se met dans toutes les choses.
Ça. Mais en étant complètement ancré dans ses valeurs. Donc, il faut être hyper flexible en termes de la manière dont tu vas aborder les sujets, tout en étant centré sur l'objectif et où tu veux aller. Et donc, c'est vraiment à naviguer. C'est pas facile. Mais donc, oui, durant la COP, c'est cette idée de mettre des gros coups de pression envers le monde politique qui nous renvoie des coups de pression. Mais aussi, il y a des coups de pression systémique, structurelle, d'une certaine manière. Donc, l'espace civique dans ces grands espaces de conférences internationales sont hyper limités. Pour donner un exemple d'une règle qui, pour moi, n'a aucun sens, quand on est dans la zone de négociation à la COP, on ne peut pas citer de nom de pays. Donc, juste si tu dis Belgique, hop, t'es dehors. C'est illégal. Mm-hmm. Donc, ça n'a aucun sens, enfin, pour moi, en tout cas. Et en fait, on ne peut pas littéralement pointer du doigt un État, ce qui me paraît quand même illogique pour moi. Et donc, il fallait, c'était drôle, ça amène des actions où on est là en train de décrire l'Arabie Saoudite sans dire l'Arabie Saoudite pour comprendre où on est dans le monde. Et donc, les coups de pression sont très, très créatifs aussi. Et ça nous amène dans des endroits où c'est hyper drôle, mais ça n'a pas de sens du tout. On était avec des experts, des scientifiques, les meilleurs, honnêtement, du monde. Et en matin, on était en face de la plénière, l'Assemblée. Donc, il y a tous les chefs d'État qui rentrent dans la salle et tout. Et donc, nous, on s'est dit, comme les scientifiques n'ont pas eu en espace durant cette séance pour pouvoir exprimer l'update, en fait, du dérèglement climatique, ils vont juste leur donner les dernières infos par papier. Et donc, on était juste devant la salle et on donnait des petits flyers en mode update de ce qui se passe, c'est la merde. Et en fait, ça, c'était vu comme aussi pas OK, à l'encontre des règles de l'ONU. Parce qu'il faut faire une demande 48 heures à l'avance et qu'on ne peut pas être dans cet espace-là. Une fois que tu fais une demande, ils mettent littéralement du scotch par terre pour te dire, voilà, vous restez dans ce carré-là, s'il vous plaît. Donc, tout est hyper contrôlé. Vous vous imaginez qu'on était littéralement assises devant les bureaux temporaires de la France, de l'Union européenne, comme ça, à attendre.
Tout ça, c'est une énergie de dingue. Là, si on résume tout ce que vous venez de dire, il faut s'adapter à différents niveaux de langage, il faut désobéir à certaines règles, il faut faire le pied de grue derrière des bureaux pour avoir accès 2 minutes à quelqu'un. Et ça, il y a une efficacité. Vous êtes le caillou dans la chaussure. C'est quoi, par fatigue, il lâche l'affaire ou quoi?
Alors, c'est drôle parce qu'à la fin vraiment des 2 semaines, l'équipe de Wouter Hoekstra, donc le commissaire à un niveau européen qui gère les dossiers sur le climat, à chaque fois qu'il me voyait, il était en mode « Oh non, pas encore !» Et en vrai, ce qui était cool, c'est qu'après ces moments de pression, mais aussi qui sont... On joue les règles du jeu aussi. Plus tard, son équipe est revenue vers nous en disant « Ok, suite à vos coups de pression, c'est vrai qu'on a regardé la déclaration là, sur les mauvaises informations, sur les fake news. » Et en fait, oui, on va faire une proposition aux États membres de rejoindre. Et donc, il n'y a pas que nous d'office, évidemment. Mais on met quelque chose à l'agenda. Et il y a tellement de dossiers qu'ils doivent gérer qu'en fait, des coups de pression, ça peut parfois permettre d'atteindre des victoires. Et donc là, on pourrait en avoir une grâce à ces moments dans les couloirs où on n'a pas arrêté de les suivre.
Parce que les peuples, ils ne sont pas invités. C'est-à-dire que vous êtes comme un peu les représentants, les porte-parole, parce que le sommet des dirigeants dans la COP, et puis il y a le sommet des peuples qui est ailleurs, à l'extérieur, et les deux ne se mélangent pas. Donc vous faites l'intermédiaire entre les deux, d'une certaine manière.
Ça, c'est un rôle qui nécessiterait encore beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de représentations,
Au sommet des peuples.
Évidemment,
aussi.
Donc on a, encore une fois, ces deux langages. Hein, donc aller au sommet des peuples, être là, prendre le temps de renforcer les coalitions, de comprendre les réalités de chacun et chacune, être ensuite dans la zone de négociation avec vraiment le monde politique qui parle un autre langage. Donc comment faire cette traduction en plus de ça, en étant une jeune fille hyper privilégiée qui n'a pas vécu ces réalités-là. Donc quelle est ma légitimité? Et donc il y a tous ces questionnements qui arrivent et honnêtement c'est très difficile de gérer et de naviguer cet entre-deux. Et moi j'ai retrouvé énormément de puissance et de joie au sommet des peuples. C'était extrêmement beau de voir toutes ces personnes du monde entier qui résistent quotidiennement à tous les niveaux potentiels pour faire face en fait au dérèglement climatique, surtout le côté adaptation, donc monter des eaux, qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à des inondations, etc. Et comment on s'organise, comment on apprend des peuples de l'autre bout du monde, etc. Et puis tu reviens dans la zone de négociation et là t'es en mode waouh, on parle de chiffres, c'est hyper ingénieur vibe, parce que si tu amènes pas les dossiers qui soutiennent ta proposition, déjà on t'écoute pas, mais si en plus tu arrives à là, il faut vraiment parler le langage plutôt du monde politique. Et en fait la traduction parfois elle n'est pas encore à la hauteur, parce qu'on n'investit plus énormément, en tout cas dans les recherches d'adaptation, dans les recherches de mitigation climatique. Donc parfois des histoires que tu entends, tu n'arrives pas à littéralement les traduire à travers notre langage plutôt occidental de faits académiques, de rapports qui soutiennent ça avec des chiffres, une méthodologie, etc. Donc c'est là aussi même une question de méthodologie, vraiment encore une fois c'est un langage. Et Le plus facile serait honnêtement de juste créer un pont directement entre la zone de négociation et le sommet des peuples. Parce qu'alors, à ce moment-là, parlez-vous. Comme ça, le monde politique n'a pas l'impression que nous, on est complètement folles à venir parler de quelques histoires qui leur paraissent ridicules et pourtant qui sont essentielles dans la lutte contre le dérèglement climatique.
Adélaïde Charlier, on va comprendre comment vous en êtes arrivée là. Okay. On comprend qu'il y a beaucoup de travail derrière. Mais un jour, vous dites, tout ça m'est tombé dessus. On est en 2018, vous êtes au lycée en Belgique. Vous participez à une manifestation climat dans le sillon de Greta Thunberg. Et le soir même, on vous tend les micros du journal télévisé en Belgique, parmi le plus regardé. Et là, ça y est, c'est parti. C'est comme ça vraiment que ça s'est passé?
Oui, c'est littéralement comme ça que ça s'est passé. En fait, on m'a proposé de venir aider à organiser une grève. Pour être 100% honnête, j'étais un peu inquiète, mais pas plus que ça. Hein. Et puis, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a un... Je suis toujours chaude d'aider. Et d'abord, j'ai rencontré donc les autres filles qui avaient organisé la grève, puis des experts qui m'ont un peu expliqué pourquoi on faisait ça. Et très vite, j'ai d'abord eu la boule dans le ventre. Hein. De pas aller à l'école, d'aller dans les rues. Je me sentais pas hyper à l'aise. Enfin, question de légitimité. Enfin, c'est normal d'être constamment en questionnement. Et puis, en fait, arriver dans les rues de Bruxelles, me dire « Ah oui, ok, non, mais je suis tout à fait à ma place, en fait. Waouh !» Avec tous ces autres jeunes. Et à la fin, de se dire « Bon, comme c'était qu'une équipe flamande, il fallait que j'étais celle qui devait gérer le côté francophone. » Et être projetée du jour au lendemain, enfin, en fait, le même jour, le soir même, à devoir expliquer à la Belgique pourquoi nous, on était sortis dans les rues. Ouais, ben là, ça te pousse en sens de la responsabilité totale. Mais du coup, aussi, tu te dis « Ok, quel impact on peut avoir, quoi ?» J'avais 18 ans, j'étais à l'école. Genre, de base, j'avais cours de maths. Enfin, donc, et le soir, il fallait qu'on explique le plus gros enjeu auquel l'humanité fait face et pourquoi les jeunes de notre âge sont inquiets. Pour moi, ce jour-là, il a tout transformé parce que je me suis dit, ah, mais en tant que citoyen, même à notre âge, à l'école, on peut briser les murs de l'école, quoi. Évidemment, c'est parce qu'on nous dit à l'école, on va pas vous dire « Sortez d'ici, faites la révolution !» Et en fait,
non, on dit
«
Passe ton bac d'abord !»
Ouais, c'est ça. Oui. Et en fait, c'est hyper important, de ce sens de participer en fait à un projet qui est beaucoup plus grand que toi, participer à la ville qui t'entoure, à ton pays, enfin, et donc oui, il faut participer parce que sinon en fait on décide pour toi aussi. Et donc c'est trop cool de comprendre tous les outils que la démocratie met en place pour qu'on puisse participer à ça. Alors ils sont pas assez développés et donc il faut les travailler, mais moi ce jour-là il a tout changé pour moi parce que
Est-ce que c'est le jour où Greta Thunberg déboule dans votre vie?
Déjà, c'était la première grève où il y a eu autant de monde dans le monde, parce que Greta, elle avait commencé, mais toute seule. Et puis nous, on s'est dit, oui, mais nous, on n'a pas envie de faire ça seule. Genre, allez, s'il vous plaît, rejoignez-nous, quoi.
Très belge.
Et donc, oui, c'est ça, on le fait ensemble. Et elle nous a tout de suite envoyé un message en mode, ah, mais trop cool ce que vous faites en Belgique, je suis chaude de vous rejoindre. Et je pense que 3-4 semaines plus tard, elle était descendue à Bruxelles pour faire une manif avec nous. Et c'est comme ça qu'on a commencé à la rencontrer et à travailler ensemble.
Aujourd'hui, c'est votre meilleure amie. Comment elle va aujourd'hui, Greta Thunberg?
Oui, elle va bien, elle va bien. Ça a été, je pense qu'elle a développé une belle carapace.
Ah, il faut. Donc, vous êtes à ce moment-là au lycée, vous faites grève tous les jeudis, c'est ça?
Oui, c'est ça, ouais. Donc, parce qu'à ce moment, en Belgique, les jeudis après-midi, c'est quand les ministres vont au Parlement et doivent en fait répondre aux questions parlementaires. Mmh. Et donc, c'est un moment important pour la politique belge.
Ah oui, c'est pensé, bien sûr. Ouais. Comme ça, vous avez réussi à si bien vous organiser. Vous avez obtenu des avancées?
Alors, c'est compliqué, évidemment, toujours d'estimer l'impact direct qu'on peut avoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a... On a installé dans le débat public ce sujet. Et en fait, quand on installe un sujet dans le débat public, directement, ça a un impact dans le débat politique. Enfin, parce que c'est un reflet direct.
Ouais. Alors donc... que vous agissez en dehors de tout parti politique.
Ah oui, 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 complètement. Ouais.
Qu'est-ce qui est repoussoir pour vous dans les partis politiques?
Moi, j'aime pas trop parce que déjà en Belgique, c'est très, très, très présent. On est vraiment dans une particratie où les présidents de partis, qui sont d'ailleurs majoritairement que des hommes d'ailleurs, je pense, en fait, ils ont énormément de pouvoir sur les instances politiques, donc le côté législatif, mais aussi exécutif. Enfin, pour moi, ils ont trop de pouvoir et ça me dérange. Et aussi, ce qui me dérange, c'est de me mettre dans une case et d'être un peu vu comme, tu vas plus jamais en sortir, quoi. Ça m'angoisse. Donc, pour moi, la démocratie est bien plus forte si on travaille aussi et surtout en dehors des partis politiques.
Mm-hmm. Bon, on comprend que vous avez l'âme d'une leaduse. Hein. J'ai lu que vous aviez été super déléguée en charge de la représentation des élèves auprès de la direction des enseignants et des parents.
Oui, j'avais trop envie d'organiser une semaine du sommeil. Enfin, j'ai organisé une semaine du sommeil. J'avais envie de faire ça parce que je me suis dit, en fait, j'ai envie qu'on puisse venir à l'école en pyjama. Et du coup, j'avais organisé toute une semaine avec plein d'experts qui venaient et tout. Et j'avais vendu ça en me disant, ben, du coup, en échange, juste le vendredi, on peut venir en pyjama. Et la direction, ils avaient accepté toute ma semaine, à part cet aspect-là. J'étais dégoûtée.
Et pourquoi en pyjama ?
Parce qu'en fait, j'ai vécu au Vietnam, à Hanoï. Et là-bas, j'ai été dans une école des Nations Unies. C'était très à l'américaine et tout. Et là, il y avait un jour par an où on pouvait venir en pyjama à l'école. Et moi, en fait, c'était vraiment les jours les plus drôles pour moi à l'école. Et moi, l'idée, en plus, c'est que, justement, comme il m'avait dit c'est quoi le but, j'avais du coup organisé toute une semaine où on sensibilise les élèves à l'importance du sommeil, où on essaie de comprendre pourquoi ce moment-là est très important pour nous, etc. Et donc, à la fin de la semaine, pour rigoler, parce qu'il faut rendre tout ce qu'on fait aussi joyeux et drôle, quoi.
Je suis d'accord.
Non, mais c'est vrai. Ah, oui. Et du coup, oui, à la fin, tu viens en pyjama. Mais comme la règle était qu'on ne pouvait pas venir en training à l'école, on n'a pas pu le faire. Moi, je trouve ça nul.
C'est vrai, donc de 11 ans à 16 ans, donc tu es scolarisé à Hanoï, tu suis ta famille là-bas, donc au Vietnam. Là, tu es confronté à la réalité d'une autre population, d'autres paysages qui t'ont conscientisé aussi pour l'écologie.
Je pense complètement inconsciemment. C'est un moment hyper important pour une jeune fille. Et du coup, de vivre au Vietnam, où on parle beaucoup de la montée des eaux du Mékong, des typhons qui sont de plus en plus intenses. Quand je suis rentrée en Belgique, c'est surtout le choc. Je me suis dit, pourquoi on ne parle pas de ça ? Pourquoi, genre, au Vietnam, on me parlait du dérèglement climatique, nos travaux étaient basés sur, les dernières inondations au Pakistan, et donc essayer de comprendre comment est-ce qu'on réagit quand on est citoyen du monde, etc. Et j'étais de retour dans mes cours de maths, et je me suis dit, ok, pourquoi pas, mais je comprends pas le but, le sens. Et tout ça, c'est inconscient, de toute façon. C'est, genre, j'ai quand même que 16 ans. Et j'aimais surtout bien faire la fête. Mais... ce qui est aussi important, c'est que du coup, je me dis, j'ai besoin de retrouver ça. Et en fait, je me retrouve à rejoindre les groupes Amnesty à l'école, rejoindre les groupes Oxfam, rejoindre tous les groupes qu'il y avait en plus, passer mes temps de midi à parler de ça. Et je pense que c'est ce choc-là qui m'a du coup amené à devenir activiste.
Ah, ok. C'est le décalage. Et quand vous devenez activiste, il y a une nouvelle Adélaïde et une ancienne Adélaïde.
Oui.
C'est vrai
que... Non, complètement.
Ah ouais. C'était l'ancienne Adélaïde alors ?
Le rêve qu'on nous vend dans les films, quoi. Le rêve américain, aujourd'hui plus trop, j'espère. Mais cette idée de vouloir travailler pour une énorme boîte. Je me souviens que Google, il faisait des pubs en mode, si vous travaillez chez nous, vous travaillez sur ce grand campus et vous avez droit à un vélo de toutes les couleurs. Et moi, j'étais en mode, oui, je veux travailler là. Et j'avais envie d'une voiture, j'avais envie d'une piscine. What ? Ça n'a aucun sens. Mais il y a eu un shift énorme et il y a surtout eu un peu le deuil de lâcher ce rêve-là et de se dire... En fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de ça ? Et surtout, de rejoindre du coup un autre rêve et de construire quelque chose, une autre envie. Et ça se construit, ça prend du temps, mais aujourd'hui...
Aujourd'hui, vous êtes végétarienne, vous faites gaffe aux fringues, vous prenez quasiment jamais l'avion, sauf quand il n'y a vraiment, vraiment pas le choix.
Comme quand mon voilier me lâche.
Voilà, quand il n'y a plus de voilier.
En fait, on ne peut pas s'accrocher à un rêve destructeur. Et donc, il faut proposer d'autres rêves. Et ça, moi, j'espère inconsciemment ou consciemment de pouvoir y participer, quoi.
Vous écoutez Bistroscopie sur France Inter. Je suis attablée dans un vrai bistrot parce que parfois vous vous demandez, tiens, c'est quoi ces bruits que vous ajoutez ? Non, non,
Adélaïde Charlet, bistrot,
on est vraiment
en bistrot,
vrai bistrot avec l'une des figures européennes de la lutte pour le climat, porte-parole de la jeunesse, Adélaïde Charlier, qui nous vient de Belgique, près de Namur. On va revenir un instant en 2018, vous êtes au lycée en Belgique parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, ou de parents d'ailleurs aussi.
Bonjour.
Bonjour à eux. Et merci de nous suivre. Et... doivent se poser aussi la question de comment on concilie une scolarité qu'il faut quand même réussir, c'est mieux, et la lutte, l'activisme. C'est-à-dire que vous avez déjà le soutien des parents.
Mais ça aide. Ça change tout.
Et vous venez d'un milieu plutôt aisé.
Oui.
Et ça, vous êtes consciente que ça aide.
Mais c'est le grand problème de l'activisme tel qu'il est, en tout cas soutenu aujourd'hui, parce que l'activisme prend énormément de forme. Enfin, l'engagement citoyen aujourd'hui prend énormément de forme. Et souvent, ce sont ceux qui le portent dans milieux plus aisés, qui ne sont pas diabolisés, qui ne sont pas vus comme entre guillemets extrémistes, etc. Mm-hmm. Donc oui, parce que je joue les codes parfois de mon milieu, alors c'est mieux accepté, mais c'est hyper problématique en fait de voir l'activisme comme ça aussi.
Il est arrivé qu'un jour vous rencontriez Emmanuel Macron.
Oui, c'est vrai.
Et que le lendemain, vous soyez sur les bancs de l'école.
Mais du coup, j'ai raté l'école pour lui. J'ai pas eu de certificat d'ailleurs. Mais oui, c'était dans ce moment hyper important des grèves pour le climat. Donc on était vraiment. En fait, c'est pas moi uniquement qui rencontre Emmanuel Macron. D'ailleurs, on était 5 filles. Mais c'est parce que la jeunesse s'était levée, qu'on était des milliers à travers l'Union européenne. Beaucoup en Belgique aussi. Vraiment, je souligne que la Belgique a été pionnière. Comme quoi, on est un petit pays, mais parfois on peut faire des choses assez stylées. Et du coup, oui, ça, on a fini à l'Élysée, littéralement. Et ça, c'était hyper intéressant. C'était beau pour montrer que les jeunes sont légitimes de pouvoir s'approprier cette lutte. Ça, c'était dans le moment fort du mouvement, mais le mouvement, c'est des vagues. C'est tout aussi légitime aujourd'hui, en tant que jeune, d'être engagé, de trouver sa voie. C'est tout à fait normal d'être anxieux aujourd'hui. Si on ne l'est pas, je pense que c'est même bizarre. Mais du coup, de transformer cette anxiété en action. Et donc, si on ne retrouve pas aujourd'hui que les chefs d'État ne s'intéressent plus à nous, alors on se dit quoi ? On arrête ? Parce qu'on a eu un moment donné où ils ont porté leur attention sur nous. Surtout pas, en fait.
On voit bien que vous ne les attendez pas, de toute façon.
Non, alors surtout pas, il ne faut pas, sinon...
Et vous avez cette phrase, nous, les citoyens, nous sommes leaders, et en fait, les décideurs sont nos followers.
Oui. Mais en fait, beaucoup de politiques sont même d'accord avec cette phrase. Et c'est vraiment ce que j'ai remarqué après le nombre de rencontres comme ça, même Angela Merkel et d'autres qui nous disaient, à la fin, en off, du coup, ça reste pas du tout en off, si, mais genre, continuez, quoi. Continuez.
Elle peut pas dire c'est le contraire, elle peut pas dire arrêtez
c'est
tout.
C'est quand même drôle de demander à un mouvement social et environnemental qui prend énormément de place à travers le monde, de leur dire de continuer. Donc ça veut dire qu'une force citoyenne qui s'organise aide le monde politique à prendre des décisions qui sont difficiles. Donc je pense que c'est vraiment hyper important de souligner ça. En fait, le monde politique a besoin de pression sociale. Sans pression, aujourd'hui, ils ne peuvent pas prendre des décisions qui sont vues, entre guillemets, comme difficiles pour eux. Donc oui, le politicien est follower, parce que c'est en fonction de ce que nous, on met à l'agenda.
Angela Merkel qui vous follow, c'est pas mal.
Follow sur Insta, madame.
Et Emmanuel Macron aussi vous a encouragé en disant continuer ou pas ?
Il faudrait que je me remette là-dedans.
Comment est-ce qu'il a évolué, ce mouvement ?
Le mouvement, il a évolué dans énormément de directions. Certains jeunes ont besoin d'être littéralement les mains dans la terre, en fait. Ils ont besoin de voir directement l'impact du jour au lendemain de leur action, ce qui est tout à fait légitime. Et d'autres qui se sont dit, mais en fait, on ne peut pas continuer à juste manifester de temps en temps parce que ça n'a clairement pas eu l'impact à la hauteur de l'urgence. Et donc, on voit aussi l'organisation de la désobéissance civile. Et donc, il y a tout un panel de moyens d'action qui s'est développé aujourd'hui. Et je pense qu'en réalité... pour la plupart, presque tous, ils sont très légitimes. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer que tous sont très réfléchis.
Adélaïde Charlier, après la terminale, plutôt que vous asseoir sur les bancs tout de suite de l'université, vous embarquez sur un voilier déjà, pour rejoindre une COP déjà, au Chili. Sauf que, en plein milieu de l'Atlantique...
Ça a été annulé, quoi. C'était horrible. À ce moment-là, on arrive près du Cap Vert. Et là, on est un peu connecté et on reçoit l'information que le Chili abandonne l'idée d'accueillir la COP. Oui, on pleure, en vrai, d'ailleurs. Enfin, on est complètement déstabilisé. Et en plus, on se fait ridiculiser médiatiquement parce que vous êtes en plein milieu de l'Atlantique alors que vous ne devez même pas y aller. Enfin, c'est dur, quoi, en vrai. Mais bon, on s'adapte vite et on se dit, OK, on garde le cap vers l'Amérique du Sud parce que on est aussi accueilli pour un grand sommet dans la forêt amazonienne au Brésil. Et donc on se dit, faut qu'on y aille. C'était d'ailleurs un sommet qui nous a permis de construire des coalitions qui étaient bien plus fortes que si on avait été à la COP. Et donc ça a changé complètement mon activisme parce que faut imaginer la petite fille de 18 ans qui arrive au Brésil, déjà donc qui se questionne sur plein de choses, et puis de se dire, OK, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. C'est pas juste une question de gaz à effet de serre qu'il faut réduire. Il n'y a pas que les ingénieurs qui vont pouvoir travailler sur ça. C'est beaucoup plus complexe et structurel. Ça impacte directement des communautés à travers le monde. Et surtout, on ne peut pas parler juste de climat. En fait, on est en train de dépasser toutes les limites planétaires.
Et ça, c'est une rencontre décisive que vous faites avec une jeune fille de votre âge.
Anita,
Indienne d'Amazonie.
Ouais.
Anita.
Oui, Anita, c'est une amie qui, du coup, on s'est rencontrés à distance. Puis là, je suis retournée en Amazonie il y a quelques mois. Et moi, je suis belge. Et je décide d'être activiste. C'est une décision tous les matins, en réalité. Si je veux demain, je lâche.
Tous les matins, il faut se redire, j'y vais.
Tous les matins, on se dit, on prend activement une décision d'être engagé. Parce qu'on a le privilège de pouvoir nier une réalité aujourd'hui. En tout cas, pour certains. Et moi, je sais que je suis dans ce privilège-là. Et ça, ça me rend fou de me dire qu'en fait, c'est un privilège. Et donc, ma pote Anita, c'est pas un privilège. Elle peut pas se dire, ouais, je vais arrêter d'être actrice. Non, parce que c'est littéralement son territoire qui se fait manger quotidiennement. Et donc, elle doit lutter contre la présence d'industries minières, contre la présence d'une industrie énergie, donc c'est-à-dire la mise en place d'un barrage hydraulique en plein milieu de la forêt amazonienne. Et on a l'impression du coup d'être en ville alors qu'on est en plein milieu de la forêt amazonienne.
Vous résumez cette rencontre avec Anita et votre premier voyage en Amazonie avec cette phrase. C'est avec elle que je fais le lien entre la science et les tripes.
Complètement. Et c'est là que ça a changé pour moi dans mon activisme, parce qu'au début, en fait, c'était la tête qui parlait, très occidentale, de se dire, je lis des rapports, le GIEC, donc les experts du monde entier nous disent que c'est la merde pour le dérèglement climatique, donc je réagis. Après, tout ça est descendu dans mes tripes à partir du moment c'est littéralement des vies, en fait. On parle pas de trucs abstraits, on parle littéralement là, au quotidien, même ici, en France, s'il y a des inondations. Ici, en France, le lien avec si on met en place des politiques environnementales, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis des différences socio-économiques. Non, mais littéralement, c'est ça, en fait, dont on parle. Et donc, ça m'a pris dans les tripes et ça a changé mon activisme parce que du coup, tout à l'heure, je disais, c'est une décision constante de devenir activiste. C'est une évidence maintenant. Donc, c'est une décision... que je dois continuer à faire, mais qui est juste évidente. Mmh. Évidente.
Et vous n'avez que 25 ans, donc ça va durer.
Pour le reste de ma vie. Après, j'espère que ça va évoluer avec le contexte dans lequel on vit, parce que l'Adélaïde activiste il y a 7 ans et celle d'aujourd'hui est très, très différente. Donc l'activisme va évoluer. Mmh. Mais je ne vais jamais lâcher.
Je vois dans votre regard. Elle vient de dire ça avec une détermination.
Oui.
Pouf, déjà. Pour vous, c'est l'Union européenne la priorité. C'est-à-dire que votre activisme, vous le pratiquez beaucoup à Bruxelles, près de la Commission. Vous avez créé une association qui s'appelle The Bridge. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au pont, justement, entre les décideurs et les populations. Qu'est-ce que c'est The Bridge et pourquoi l'Union européenne, c'est prioritaire? Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui?
Il faut savoir que 80% des politiques environnementales qui sont décidées... aujourd'hui, en France par exemple, viennent de Bruxelles. Donc en fait, c'est essentiel si on veut avoir un impact sur ce qui nous entoure en termes de politique environnementale, ça passe par l'Union européenne. Et ça peut être beau parce que du coup, c'est hyper fort, c'est puissant, parce que c'est 27 États en même temps qui agissent, mais c'est aussi hyper complexe. Et surtout, la complexité de la bulle européenne, comme on l'appelle, donc c'est vraiment ce qui se passe là-bas et ce qui se passe à Strasbourg un peu, parce que quand même, ici, sur le territoire français, vous avez un Parlement européen. Il faut comprendre tout ça, décrypter tout ça, et pourtant, ça nous impacte tous les jours. Ça impacte, par exemple, littéralement les agriculteurs en France. Donc, sur plusieurs aspects, le fait que savoir combien de subsides ils vont recevoir, combien d'argent ils vont recevoir, d'aide de l'État, en fait, ça, c'est décidé à un niveau européen. Savoir, par exemple, s'ils doivent laisser une partie de leur terre à la biodiversité ou pas, hop, décidé à un niveau européen. L'accord EU-Mercosur, qui a été un énorme un sujet très, très important pour les agriculteurs français et aussi belges, d'ailleurs, de contrer cet accord, ça, hop, c'est encore une décision européenne. Donc, tout ça, c'est pas pour dire qu'il faut dire « Ah, on démantèle tout, ça va pas ». Non, c'est-à-dire en tant que citoyen européen, comment on est inclus dans ça? Comment on continue à mettre ses bâtons dans les roues, dans ce système qui est en train de détruire l'environnement, de détruire énormément d'aspects sociaux? Comment est-ce qu'on continue à faire ça aussi à un niveau européen? Parce que là, on n'est pas très représenté. Ça, je peux vous le dire. Dans cette bulle, il y a énormément de lobbyistes. C'est d'ailleurs Bruxelles, c'est la ville où on va retrouver le plus de lobbyistes. La deuxième ville où on va retrouver le plus de lobbyistes après Washington DC. Okay, donc ça veut dire qu'en Europe, c'est là qu'on retrouve les lobbyistes. Donc il faut créer, de manière humble et possible, et avec notre qualité de société civile, un contre-pouvoir. Et c'est ça qu'on veut faire avec The Bridge, c'est ça qu'on veut faire avec notre asso, c'est de se dire, on ne veut pas laisser l'espace, on ne veut pas laisser Bruxelles aux lobbyistes. Voilà, on veut aussi que la société civile ait son mot à dire, soit entendue, s'organise, se mobilise, et donc on coordonne des mouvements à travers toute l'Union européenne, qui agissent eux à un niveau national, à un niveau local, ce qui est hyper important et essentiel, mais on s'assure que leur message en niveau local et national soit aussi entendu à Bruxelles en niveau européen.
Voilà. L'art de la coalition.
Non, mais c'est que ça, la coalition. La société civile, on est obligé de travailler en coalition. En tant qu'individu, on n'est jamais assez fort. Après, il ne faut pas sous-estimer notre puissance. Mais on est hyper puissant ensemble. Et c'est ça qui fait peur. C'est quand on s'organise. Là, je peux vous dire que ça peut faire peur de l'autre côté.
Et Adélaïde Charlier, comment est-ce qu'on s'organise aujourd'hui avec Donald Trump qui a pris le pouvoir d'une manière quasiment planétaire? Si j'étais vulgaire, je dirais que l'axe de rotation de la Terre a changé et qu'il tourne autour de sa teub.
Ouais. Excellent, ouais, ça doit qu'on est au bistrot là, voilà.
Ouais, mais
okay,
voilà.
J'adore.
Allez donc, comment vous devez adapter votre stratégie? Je vois que vous n'êtes pas découragé.
Non.
Pourtant, le travail est encore plus ardu.
Oui, c'est hyper dur. Bah, la réalité est que Donald Trump, il influence littéralement ce qu'on décide ici en France, ce qu'on décide à Bruxelles. Enfin, littéralement. Aujourd'hui, on a centré nos politiques en se disant, ce que Trump fait, c'est quand même... Enfin, on est contre, mais en même temps, on fait la même chose. Parce qu'on se dit, on est en train de rater l'aspect compétitif, toutes nos industries veulent partir des États-Unis, tout le monde veut aller aux États-Unis, mais il n'y a que les industries qui veulent aller aux États-Unis. Hein. Enfin, est-ce que ceux qui nous écoutent, vous avez envie d'aller vivre aujourd'hui aux États-Unis? C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire à Bruxelles, ce qu'on est en train de faire aussi ici à Paris, donc dans un niveau de pouvoir national et européen, c'est de se dire oh, mince, on est en retard sur l'aspect compétition. Et du coup, copy-paste, on prend les politiques chinoises, on prend celles des États-Unis, hop, on les applique ici. Et leur politique, c'est quoi? C'est de ne pas avoir de politique. Hein, c'est ça, la politique aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas réguler, il ne faut surtout pas mettre de règles. Hein. Mm-hmm. Comme ça, c'est le monde économique et c'est les entreprises qui gèrent. Alors, là, j'ai mis aucune nuance. On peut avoir de la nuance si on veut. Mais c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, comment...
Vous vulgarisez la chose, en fait.
Il faut vulgariser. Ouais. Déjà, ça reste important aujourd'hui d'avoir l'information, ça reste un pouvoir. Mais on ne veut pas rester à... On vous décrypte ce qui se passe. Il faut aussi pouvoir offrir des moyens d'action. Se dire, OK, mais vous n'êtes pas seul. Ça, c'est un premier signe pour moi de résistance. Et du coup, c'est de rassembler. En fait, on est dans un moment où, à la Trumpiste, il y a trop de choses qui se passent en même temps. On ne sait pas où mettre la tête. Et en même temps, on est en train de tout déréguler sur les questions pesticides. Mais en même temps, il y a la question des droits des femmes, qui est un énorme sujet aujourd'hui au niveau européen. On essaie de faire passer le fait que l'avortement peut devenir un droit. Donc, il y a plein de choses sur tous les aspects qui sont en train de se passer. On est en mode, je ne sais pas où mettre de la tête. Quoi. Je suis hyper overwhelmed. Genre, il y a trop d'infos. Et donc, il faut...
Ça va, Jean-Claude Van Damme, tranquille? Trouve ce petit nom anglais.
Oui, c'est ça. C'est mon American Dream qui revient. C'est la Adélaïde d'avion. Mais du coup, dans ces moments-là, le plus important, et c'est dur, hein, je dis pas, c'est de garder le cap. Où est-ce qu'on veut aller? Et de naviguer à travers la folie du monde dans lequel on est aujourd'hui, en sachant où on va. Et en offrant des espaces de collectivité. Et juste ça, c'est une résistance énorme. Honnêtement, il y a des millions de personnes aujourd'hui, là, à Bruxelles, qui s'organisent pour s'assurer que le droit à l'avortement devienne un droit à travers toute l'Union européenne. C'est génial! Non, mais c'est trop fort de voir ça, qu'à travers tous les spectres, non seulement politiques, mais aussi de métiers, etc., tout le monde s'engage pour ça. Et il y a de la résistance qui est hyper présente parce qu'il y a quand même l'extrême droite aux portes du pouvoir, littéralement au pouvoir aussi. Hein, c'est plus, on ne parle plus de porte aujourd'hui, ils ont cassé cette porte. En fait, on a une force de frappe. Parce que ce qui a changé entre il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est le contexte, c'est pas nous. Il y a encore plein de gens qui ont envie de s'engager. Donc pourquoi on ne continue pas à offrir des moyens de collectivité pour qu'on s'engage ensemble? C'est ça que je veux offrir avec mon asso. Et c'est aussi le meilleur outil pour pas tomber en dépression. C'est le meilleur médicament, honnêtement.
Adélaïde Charlier. Ouais. Eh ben, je vous laisse reprendre le train vers Bruxelles pour continuer à mettre la pression sur nos autorités européennes. Votre mère dit de vous, c'est une énergie renouvelable à elle toute seule. mais vous tenez grâce au collectif aussi. Ouais. Et donc, on rappelle The Bridge, bien sûr. Allez vous renseigner, parce que comme ça, il y aura aussi de la nuance.
Oui, oups. Moi, je sais que... Ici, je ne suis pas obligée d'en mettre.
Avec moi, vous voulez dire?
Ouais. Comment le dire gentiment?
Profitez-en. Merci
Adélaïde. Merci Charline, merci à toute l'équipe aussi.
Ainsi s'achève Bistroscopie. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Stéphane Ronxin à la réalisation. Merci à Yvan Charbit à la prise de son, Corentin Rouchy au mixage et Noémie Boncourt à la documentation. Je vous retrouve samedi prochain à 19h20 avec Laetitia Doche.